Et vous êtes de retour dans le magazine de Canal Sud. Il est 13h moins 4 minutes. Et pendant 1 heure, on va être avec Marie-Madeleine et ses invités pour un petit magazine culturel, en fait, c'est ça?
Bonjour, effectivement, nous allons causer théâtre, ce qui est quand même, comment dire, la raison de ce temps, entre 13h et 14h. Et donc aujourd'hui, nous recevons Christophe Champin, Éric Sanjou de la compagnie Arène Théâtre pour la présentation d'Hamlet de ce cher William Shakespeare qui sera présenté au Parc des Sports du Bazac. C'est le quartier des Amidonniers, c'est au fin fond de,
Non, pas
du...
vraiment au fin
Ah
fond,
bon?
mais non, si on dit fin
Et non,
fond.
mais il faut faire un long chemin pour accéder au... C'est pas juste à l'entrée, c'est
Oui,
ce que je voulais
voilà,
dire.
un
Enfin,
petit
c'est...
chemin,
Voilà.
mais
Au Parc
très
des Sports
agréable.
du Bazac, oui, c'est de la verdure, c'est sous le chapiteau du Cirque Pardi. La première a vu lieu le 15, c'est joué jusqu'au 26, tous les soirs à 19h, le dimanche à 16h, relâche lundi et mardi. C'est bien ça?
C'est exactement ça.
Et la création a vu lieu à l'abbaye de Belperche, dans le Tarn-et-Garonne, cet été.
C'était cet été le 29 juillet, je
Le
crois.
30 juillet, mais c'est pas
À
grave.
30,
Vous
voilà.
avez déjà présenté maintes spectacles dans cette abbaye,
Oh
je me
oui,
souviens.
on y a fait beaucoup de choses pendant de nombreuses années. Voilà. Et là, on y retournait après l'avoir quitté pendant quelque temps, mais c'était bien de retrouver l'abbaye pour faire la création. Voilà.
D'accord.
On y avait créé aussi la Nuit des Rois, d'ailleurs, de
De
Shakespeare.
Shakespeare. Alors, je précise aussi que la mise en scène et la scénographie sont signées par vous, Éric Sanjou.
Bah oui.
Voilà.
Oui, je continue à faire mes scénos, mes lumières. Voilà, je suis tombé dedans quand j'étais petit, donc je peux pas.
Ne pouvez pas en sortir.
Non, maintenant je peux pas en sortir. Non, non.
Pour la petite histoire, Hamlet, déjà, bon, Shakespeare, vous avez créé d'autres pièces de Shakespeare, mais Hamlet, vous aviez fait une, comment dire, une ébauche à Troyes, et ça
Oui.
s'appelait presque Hamlet, un soupçon
Un
d'Hamlet, hein,
soupçon d'Hamlet, ça
dans un
s'appelait.
tout petit lieu
Ouais,
à
ouais,
l'époque.
ouais. Un soupçon d'Hamlet, on l'avait créé au TPN.
Non, on l'avait
Non.
créé à Moissac.
Oui, on l'a créé à Moissac, mais après il a été repris.
Mais vous l'avez joué aussi dans un tout petit lieu, au bord du canal.
Ah oui, c'est vrai, oui.
Moi, je l'avais vu
Je sais plus
là-bas.
comment ça s'appelait.
Ça s'appelait l'Atelier, je crois, à l'époque, non?
Oui, c'est
Il
ça,
me semble.
oui.
Mais c'était en 2003.
Oui, je sais, il y a longtemps, mais...
Oui, il y a longtemps.
Donc, Hamlet, vraiment...
C'était une
Voilà.
ébauche, enfin non, c'était un travail autour d'Hamlet, trois comédiens, et on jouait à trois tous les personnages. Voilà. Donc Frédéric Klein jouait Hamlet, et puis Christophe et moi, on jouait tous les autres. Voilà. Et c'était vraiment un travail autour du théâtre, voilà, de la théâtralité d'Hamlet,
Le questionnement, oui.
d'une des questions centrales d'Hamlet. Mais je savais déjà qu'un jour je
Vous
montrais
jouez
la
dans
totalité d'Hamlet.
l'intégralité.
Oui, oui, oui.
Avec, là, il y a 10 comédiennes et comédiens sur scène,
C'est
c'est ça,
ça,
hein?
c'est ça.
De
On est
10.
10. Ouais.
Ouais, 10.
Ouais.
Donc, de grandes fresques.
Oui, on est passé de 3 à 10.
Voilà, c'est très foisonnant, très riche, comme toujours,
Bah,
avec...
il y a toute la pièce, donc l'intégrale, c'est donc 4 heures de spectacle.
On n'a pas le temps de s'ennuyer pour les gens qui trouvent, qui auraient peur de longueur, ça, voilà. Il y a
Non,
tellement de
non, je
choses qui se
crois que
passent.
oui. Puis on raconte une histoire.
Ah bah oui,
Hamlet,
quand
c'est
même, oui.
voilà, c'est raconter une histoire. C'est en effet une grande fresque, et puis ça aborde à peu près tous les sujets essentiels. Voilà.
L'appât du pouvoir, les arrangements, les petits arrangements,
Oui. Donc il y a
l'hypocrisie,
beaucoup de
la
choses
folie, qu'est-ce que...
Il y a beaucoup de choses qui sont en fait
Et
extrêmement
puis le théâtre dans le
contemporaines.
théâtre, puisque bon, il y
Oui,
a
bien sûr,
la
bien sûr.
scène de
Oui.
l'assassinat du père d'Hamlet qui est
Bah,
rejouée.
c'est pas pour rien que c'est la pièce des pièces, quoi. Tout le monde, je crois, tout metteur en scène doit avoir un moment envie
De jouer Hamlet, enfin de le mettre en
de le mettre
scène.
en scène, de s'attaquer à Hamlet. Et je pense que beaucoup de comédiens ont aussi envie de jouer le rôle d'Hamlet. Oui. Je
Ah
pense.
oui, c'est un personnage attachant, c'est le moins qu'on puisse dire.
Oui,
Quand
oui,
même.
oui. Ben, il nous ressemble beaucoup,
Complexe,
hein, en
il
fait.
est... Voilà, ouais.
Il est aussi complexe que nous, quoi. C'est un humain. C'est ce qu'il y a de très très beau, moi, je trouve, dans Hamlet. C'est qu'on n'est pas en face d'un. finalement, on n'est pas en face d'un personnage. Mm-hmm. On est en face d'un être humain.
D'un être humain, oui. Voilà, avec ses fragilités, ses forces.
Et qui vient nous parler. Qui
ses
nous parle
errements,
directement.
Ses questionnements.
Et il s'adresse.
Il est pétri de culture aussi, il faut dire.
Oui, bien sûr. Oui. Et il s'adresse au spectateur. Mm-hmm. C'était important pour moi d'arriver à faire ça, d'être dans la proximité et d'avoir cette relation directe au public qui est finalement la relation au public très, très élisabéthaine, puisque c'est comme ça que ça se produisait. Mmh. La scène s'avançait au Théâtre du Globe. Où le Hamlet a été créé, la scène s'avance au milieu des spectateurs, il y a le parterre où les gens sont debout, ce parterre qui vivait, qui mangeait, qui pouvait
festoyer.
Interpeller les acteurs. Donc il y a dans Hamlet énormément de couleurs aussi et de théâtralité différente parce que c'est du théâtre qui s'adresse à la fois à un public populaire et à une élite. Et donc Shakespeare mélange totalement ça pour que tout le monde y trouve son compte.
Oui, au niveau du vocabulaire.
Exactement. Donc il y a des choses qui sont extrêmement triviales, très drôle. On est dans une tragédie, mais il y a
des moments
comme toujours
drôles,
chez Shakespeare le contrepoint comique permanent, ce qui donne une vie intense à la pièce et à ce qui se passe sur le plateau. Et puis il y a le sublime.
Voilà, ah oui, le texte, c'est
des magnifiques
vers avec un langage très riche.
Oui. Et puis la traduction choisie, que j'avais déjà choisie.
Vous êtes fidèle à ce
traducteur. Oui, André Markovitch, moi je la trouve vraiment magnifique. Mm-hmm. De plus en plus, vraiment.
Oui, parce qu'il y a aussi l'histoire du rythme, du souffle, tout ça dans une traduction.
Tout à fait. Et André Markovitch a traduit en décasyllabes non rimées. Il n'y a que les fins d'actes qui sont rimées, exactement comme chez Shakespeare. Il a fait un travail remarquable. Et je trouve que ce texte coule extrêmement bien. Alors, il y a des petits endroits où je suis allé un petit peu intervenir.
Vous avez mis un peu de fantaisie, oui.
Non, mais même déjà sur des petites choses dans la traduction, c'est normal parce que en jeu ou d'un coup, rythmiquement, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui fonctionnent un peu moins bien.
Qui ne passent pas très bien, oui.
Voilà, donc il faut les remédier, retravailler dessus. Après, il y a forcément des lazzis, des moments où...
Il y a des petits clins d'œil à l'actualité, comme ça.
Comédiens,
de façon très ponctuelle.
Mais ce qui était aussi le cas à l'époque. Il y avait des espaces comme ça de lazzi, des endroits où on parlait du temps présent, parce que la pièce s'écrivait aussi comme ça, on rajoutait des choses, le texte était, il y avait un texte
enrichi,
fixé,
entre guillemets.
Et puis il s'enrichissait au fil
des représentations,
ce qu'on essaie de faire aussi.
Donc il y a, comment dire, un rapport bifrontal, c'est comme ça qu'on dit, public.
Oui,
et scène.
Oui, au départ je voulais un rapport encore plus éclaté, j'imaginais vraiment une circulation que tout l'espace soit vraiment le palais, que les comédiens soient très souvent au milieu des spectateurs. C'était compliqué. Mmh. Et puis avec le Covid aidant et les normes sanitaires, ça paraissait encore plus compliqué.
Il faut rappeler que normalement, ça aurait dû être joué l'an passé, toujours au...
Oui. C'est pas grave, Marie-Madeleine. On peut taper dans les micros, ce sont des choses qui arrivent.
C'est mon enthousiasme. Mon énervement par rapport à l'enthousiasme.
C'est souple. Et donc oui, le spectacle devait être créé il y a à peu près un an, c'était en novembre. En novembre de l'an dernier, et donc on devait...
Ça fut maintes fois repoussé.
Et puis voilà, on a été confinés, donc nous n'avons pas créé.
Donc, pour ça, c'est comme ça que vous avez un peu changé l'idée de base,
oui,
d'éclatement.
Oui, oui, oui. Et puis, il y a un moment où il faut... Voilà, c'est aussi une simplification.
Oui, parce que 4 heures, c'est pour les comédiens et les comédiens, malgré tout.
Mais donc, on est sur un fonctionnement bifrontal. Et avec quand même des comédiens qui, de temps en temps,
se déplacent.
Voilà,
et
l'espace, quand même, est hanté. Par les comédiens.
Et est-ce moi, je sais pas, alors ça me fait penser à un pont, c'est l'endroit sur lequel jouent les comédiennes et les comédiens. Est-ce c'est un truc entre l'au-delà et le présent, entre vérité, mensonge, entre réalité, lucidité, folie. Est-ce...
Oui, je sais pas, je l'ai pas analysé.
Non, mais moi, j'ai pensé à ça ce matin. Bon.
Je l'ai pas analysé comme ça. Pour moi, il y a ce carré central qui est le ring, qui est l'arène.
C'est le cas de dire.
Bah oui, bien sûr, puisque Shakespeare ne se privait pas de citer en permanence le globe dans ses pièces. Donc, moi, je cite la reine. Et donc, voilà, il y a ce carré central. Après, nous, on se raconte des histoires.
Ah oui, j'imagine.
Avec la falaise, avec on imagine la mer derrière. Voilà. C'est surtout un espace à arpenter. Voilà, je voulais qu'on puisse avoir de très grandes distances entre les acteurs. Là, on a une diagonale qui permet aux acteurs d'être éloignés de 20 mètres. Quoi. Donc ça crée forcément des tensions. Voilà, c'est comme un élastique qui peut se tendre extrêmement et puis hop, revenir. Et on revient sur le carré central pour s'affronter, pour les scènes plus intimes. Et puis à nouveau ça éclate, voilà, ça permet aussi des grands mouvements, des mouvements d'ensemble aussi.
Certains costumes aussi ajoutent à ça grandes, capes, enfin je sais pas comment
appeler. Un travail remarquable de Richard Cousseau qui fait les costumes depuis plusieurs années pour moi et voilà, on a travaillé, on a cherché ensemble et on est arrivé à cette chose extrêmement simple de grandes capes, de grandes couettes. Ce sont des couettes, voilà, disons-le.
Ample.
Noir, oui, celles du roi et de la reine font 4 mètres
de, jouer,
font 4 mètres de long,
mais on peut... De s'enrouler.
Exactement, on peut s'enrouler dedans, on peut en faire des manteaux, on peut en faire des robes, et c'est exactement le même...
Se cacher.
La même cape pour tout le monde. Tout le monde a le... Voilà, et avec ça, on fabrique... Alors ça, c'est toujours mon rapport à l'enfance, au déguisement, au jeu. Et là, c'est, je crois, encore plus présent dans cette mise en scène d'Hamlet.
Vous avez une passion du tissu, en général, vous.
Oui.
Dans toutes vos créations, il y a toujours...
Oui, c'est vrai. Et puis, de la recherche aussi d'une simplicité comme ça, d'arriver à faire des choses avec presque rien, de créer, de faire fonctionner l'imaginaire avec peu de choses, peu de moyens.
Et puis il y a aussi parmi les costumes, j'ai cru comprendre qui, au niveau des manches, elles peuvent se mettre, s'enlever, non ?
Oui, on peut faire plein de choses différentes. Plein de choses différentes.
Comme des enfants qui s'amusent.
Exactement. C'est de l'ordre du
jeu.
Oui, du jeu.
Du jeu, c'est ça. Christophe, j'aimerais que vous interveniez, puisque vous êtes comédien et que vous jouez plusieurs rôles.
Oui.
Donc, quand Eric parlait de cet espace où des fois les comédiens étaient rapprochés, puis d'autres fois, au contraire, ils s'éloignaient. Donc, j'aimerais que vous parliez de tout cela et puis de vos divers rôles, puisque vous en avez plusieurs.
Pardon.
Et donc vous changez, vous mettez un chapeau, vous êtes l'autre personnage.
Oui, et moi j'ai cette chance-là. On parlera après un peu d'Hamlet quand même.
Oui, aussi. mais je fais pas.
Voilà, bon, après moi je travaille avec Eric depuis de nombreuses années.
Un certain temps, on va dire ça comme ça.
Et je me suis retrouvé, à jouer plusieurs rôles. Donc ça va de Marcellus en passant par le premier comédien qui joue la reine de comédie. Osric à la fin, Reynaldo qui est un serviteur. Donc ça c'est très intéressant à faire parce que On est à la fois sur des moments plus, on va dire, plus légers aussi, mm-hmm. plus dans les moments de comédie dont parlait Eric hier, tout à l'heure. Excusez-moi, je suis un peu fatigué.
Normal.
Oui, un petit peu fatigué.
4 heures, c'est long. Non, des fois, je veux dire, c'est long pour le corps.
Oui, mais j'ai bien compris, parce que oui, c'est intense en plus.
Et donc, on a.
Oui, continue.
On a cherché avec Eric. Alors, d'une part, on parlait à l'instant des costumes. Les costumes permettent ça aussi, c'est-à-dire des changements très rapides.
Oui, oui.
Tout d'un coup, le costume se transforme. Il peut y avoir un chapeau, une paire de lunettes. Mmh. Et
hop, c'est notre personnage.
Voilà, on s'est beaucoup amusé avec ça. Et puis après, y a ce qui est passionnant aussi, forcément, c'est. On en parlait tout à l'heure, c'est le théâtre dans le théâtre, c'est l'arrivée des comédiens. Mmh. Donc là, je ne suis pas tout seul à faire l'arrivée des comédiens.
Mmh.
Donc c'est cette mise en abîme
du
théâtre,
et puis
la façon dont Shakespeare l'amène, c'est-à-dire que d'abord il y a l'arrivée des comédiens, enfin avant il y a les scènes qui précèdent où on parle du théâtre, et ça c'est passionnant, c'est-à-dire que Shakespeare c'est d'une actualité un peu hallucinante, c'est-à-dire Rosencrantz, Guildenstern et Hamlet dans cette scène-là, ils parlent du théâtre, de la difficulté des comédiens, des moyens, des lieux pour jouer, et plus on avance jusqu'à cette représentation.
Des compagnies qui se font virer par des...
Tout à fait.
Alors là on ne sait pas ce que c'est, mais par des pouvoirs.
Voilà. Pour l'anecdote, voilà. Et c'est pas une anecdote pour nous.
Donc pour nous, c'est quand même extrêmement précis.
Vous voulez dire par là ?
On sait de quoi, on sait vraiment de quoi on parle.
Donc oui, je vais m'autoriser à le dire. Et de toute façon, ça a été rendu public. Nous, la compagnie Arène Théâtre, on était implanté
à Moissac.
À Moissac, et quand la ville est passée à l'extrême droite, nous avons été
virés.
On peut dire comme ça, virés. Mm-hmm. On a eu double peine, confinement avec annulation d'Hamlet et on s'est fait éjecter de Moissac. Mais bon.
Sous prétexte qu'il n'avait pas la même lecture du théâtre, ce que va être le théâtre.
Pas du tout, c'était un double discours. Si vous allez continuer à travailler avec nous, mais comme on avait. Comme beaucoup d'autres artistes, on s'était mobilisés pendant la campagne
pour empêcher
que il a fini par dire par voie de presse que c'était une punition et qu'il assumait.
Ça mérite d'être clair.
Mais je vais revenir à Hamlet.
Oui, Hamlet, c'est plus intéressant.
Oui, donc voilà, il y a cette chose-là passionnante pour les comédiens, c'est la façon dont on cherche. Ce théâtre dans le théâtre, les différences de registre de jeu, et le travail avec Eric sur ça est assez passionnant, parce que à la fois Eric nous laisse une grande liberté, on peut le dire comme ça. Il y a une liberté dans les lazzi, dans les impros, il y a une liberté de recherche quand on fait le travail de répétition. Et puis c'est une équipe qui se connaît depuis longtemps, et ça c'est aussi essentiel.
Important, oui, bien
c'est
sûr.
C'est important, on est dans une confiance absolue, on se connaît bien, un peu moins avec, parce que c'est bien, il y a des jeunes comédiens qui n'avaient pas travaillé avec nous, qui sont dans ce spectacle. Donc c'est passionnant, même de jouer des petits rôles comme ça, très différents dans cette pièce-là, c'est assez jouissif, et puis on s'amuse quand même. Enfin, moi, je m'amuse.
C'est bien. Et je voulais revenir sur le théâtre dans le théâtre, là, donc les comédiens qui jouent, avec l'utilisation, la proposition des marionnettes. Alors, je sais que vous aimez beaucoup les marionnettes, les poupées de chiffon que vous m'aviez dit lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois pour... comment s'appelle-t-il ? Calderon, vous étiez rencontrés la première fois. Vous m'aviez dit les poupées de chiffon. Et donc, il y a des marionnettes géantes.
Ouais. Et puis, il y a aussi les marionnettes.
Les petites,
petites poupées.
Les petites poupées,
Elles étaient dans La vie est un songe.
Oui, voilà.
Parce qu'il y a là dans Hamlet des citations d'à peu près tous les spectacles de la compagnie. C'est pas testamentaire.
Mais c'est un fil comme ça qui se déroule, quoi. Enfin, vous suivez.
Mais voilà, oui, il y a une partie de l'histoire.
Ces immenses marionnettes là qui sont très expressives, enfin voilà quoi.
Qui sont même extrêmement sexuées, on peut dire.
Oui, ils manipulent. Hein, voilà.
J'avais envie que les marionnettes de l'enfance, ou les poupées de l'enfance, qui auraient pu être les poupées avec lesquelles Hamlet a joué quand il était petit, aient grandi. Et voilà, elles ont grandi, elles sont devenues des poupées fantasmées, des poupées donc surdimensionnées. Mmh. Elles font 2,50 m de haut, je crois, à peu près.
Oui.
Donc avec des sexes surdimensionnés aussi. Parce que elles permettent dans cette pantomime donc qui que font les comédiens pour sur la demande d'Hamlet.
D'Hamlet, oui, c'est lui. Qui
parce que c'est lui qui met en scène la chose. Hein, donc, et elle lui permet de mettre en scène son fantasme, le fantasme du meurtre de l'inceste entre la mère et le frère, et donc d'en faire une scène qui finit en partouze. mais je crois que c'est une provocation, c'est une provocation d'Hamlet. Mais le roi ne comprend pas, parce que le roi ne comprend pas l'image. Il a besoin de la parole pour comprendre qu'on parle de lui. Claudius,
si tu permets, je précise, dans les spectacles où l'intégrale d'Hamlet est montée, la pantomime en général elle est supprimée, ce qui est dommage. T'as toujours dit, quand on a commencé le travail, je veux que cette pantomime existe à part entière, parce qu'elle est aussi une étape la représentation dans la représentation. Et comme Eric vient de le dire, le roi ne comprend pas déjà sur la pantomime, il comprendra que sur la suite du spectacle dans le spectacle, quand là, il y a la prise de parole du roi et de la reine de comédie et de l'assassin.
Et même une fois qu'Hamlet dit, il l'empoisonne dans le jardin.
Oui, il fait. Oui.
Ah d'accord, c'est bien de moi dont on parlait, parce que le roi est dans le déni absolu.
Oui, oui.
Il est.
Pour pouvoir exister, il se débrouille comme il peut.
Exactement.
Quoi, avec la réalité, entre guillemets.
Il est dans le déni. C'est une grande pièce aussi sur. C'est pas pour rien que Freud s'est appuyé sur Hamlet pour construire ces théories sur le complexe d'Édipe. Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais je crois que Hamlet a plutôt un complexe d'Électre. Moi, je pense que son problème, c'est quand même plutôt le papa que la maman. Je crois qu'il n'a pas de désir pour sa mère.
Mais il a une vénération pour ce papa,
qui était un roi... Alors est-ce que...
Est-ce
qu'il était réellement ça, ce roi, d'ailleurs?
Ça fait aussi partie du
fantasme.
Ce qu'il en... Comment dire? Ce que lui en ressent, enfin, en a en mémoire, c'est ça, quoi.
Oui.
Après, doublé par le chagrin...
Il y a eu manifestement une cristallisation à cet endroit-là.
De ce père mort prématurément, et en plus quand il sait qu'il a été empoisonné, donc
quand le spectre vient lui révéler l'empoisonnement.
Et dont sa douleur et sa colère, enfin, je ne sais pas comment on peut dire, redouble, quoi.
Il subit une succession de chocs, Il y a la mort du père qui
pour lui, qui est quand même idéaliste, on peut dire ça comme ça.
Oui, mais ses, je pense, il pense, hein,
par rapport à la société,
il pensait que le monde était beau
et que culture, si on peut dire, élevait l'homme, et qu'il était possible d'avancer comme ça.
Il pense que comme moi, que l'art sauvera le monde. Voilà. Et puis il se rend compte que c'est peut-être pas...
C'est un peu plus compliqué.
Et donc oui, ces chocs successifs qui le font sortir de l'enfance, à la perte du père, puis le mariage de la mère. Puis le père qui vient lui dire, qui vient lui dire j'ai été assassiné. Les manigances multiples de ceux qui croyaient ses amis finalement sont au service du roi et sont ses amis d'enfance. On revient toujours à l'enfance, c'est essentiel, ses amis d'enfance.
Avec qui il a joué, partagé des jeux.
Avec qui il a fait du théâtre, avec qui il a dû faire du touche-pipi, avec qui... Non, mais c'est... Donc, ceux auxquels on tient, qui sont les proches, ils vont aussi le tromper. Rien ne tient. Ophélie qu'il aime, elle est manipulée par son père. Et donc, elle est obligée de refuser l'amour d'Hamlet. Des chocs successifs. Il est mis à terre, et en même temps ça le fait grandir, mais pour pouvoir s'en sortir, il va être obligé quand même de retourner à l'enfance, donc de faire une psychanalyse finalement. Donc c'est presque comme si toute la pièce était une psychanalyse d'Hamlet. Il fait sa psychanalyse, il revient à l'enfance. Il va être exilé en Angleterre, en fait. C'est pas exilé, le roi l'envoie en Angleterre pour qu'il soit assassiné, pour qu'il soit tué, pour s'en débarrasser. Et quand il revient, il est donc repassé par l'enfance, pour moi, puisque c'est tout travail psychanalytique fonctionne comme ça.
Oui, retour au plus tendre âge, ça peut dire.
Et il revient et il dit dans sa lettre, « Je reviens tout nu. » C'est très mystérieux, cette lettre. Je reviens tout nu, qu'est-ce que ça veut dire? Et il revient refait à neuf. Il est un autre Hamlet, il revient tout nu, il est tout nu, il est prêt à mourir. Et en fait, il revient pour mourir. La chose est accomplie.
J'aimerais que vous évoquiez aussi l'histoire de la folie, parce que quand la reine dit il est fou, parce qu'au départ, on le trouve mélancolique, plus ou moins, c'est ça, quel mal le ronge, pourquoi il est comme ça. Et puis après, il devient plus virulent, dans ses propos, et puis on dit, mais il est complètement fou. Et donc, c'est tellement facile de qualifier quelqu'un de fou quand on ne veut pas voir, ou on ne veut pas entendre, ou comprendre, ou se poser des questions. Il est fou, donc, comme ça, et puis ça permet aussi de le faire partir ailleurs. Et puis après, il y a aussi la folie, c'est très difficile à... Comment dire, à définir, à cerner. Et est-ce que des fois la folie n'est pas une forme de lucidité aussi, pour certaines personnes? J'aimerais que vous reveniez sur ça, s'il vous plaît.
Donc,
si j'ai été à peu près clair,
je sais pas. Ça fait partie là pour le coup du travail thérapeutique. donc Hamlet décide d'être fou ou de jouer la folie pour ne pas
simuler,
être fou.
Oui, pour pas que tout ce qui lui arrive l'envoie.
Exactement. Donc il simule. Mais de temps en temps, à force de simuler, je pense qu'il y a des moments où il sombre aussi.
D'ailleurs, c'est très ténu la frontière, de toute façon.
Est-ce qu'il est vraiment fou? Est-ce qu'il joue?
Parce qu'avec tout ce qu'il a enduré, et donc voilà.
Mais oui, il pourrait sombrer.
Basculer.
Nous, on a tendance à se dire, jouer à être fou pour ne pas, ne pas sombrer. Et puis, ça lui permet d'avancer masqué. Ça lui permet aussi d'avoir cette protection-là. Ouais. Finalement, ça le protège.
Pour tenter d'avoir des réponses et pour éventuellement, il voudrait faire avouer.
Il doit venger son père.
Oui, c'est une obsession, quoi.
Une obsession. Et en même temps, c'est impossible, ça veut dire qu'à ce moment-là, il est comme celui qui a tué, s'il tue. C'est impossible pour lui. Il y a quelque chose qui pour lui n'est pas possible.
Cruel dilemme, quoi, si on peut dire.
Oui, totalement. Il ne veut pas être comme son oncle.
Oui, il veut garder son intégrité.
Tout à fait. Donc voilà, on est dans cette zone extrêmement trouble de la folie, oui. Et les autres, il tire sur la corde de ma folie. Il est très lucide. La lucidité absolue. Il est ultra, ultra lucide. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais en tout cas... En tout cas, la folie est aussi au centre de la pièce. Mais il y a tout, quoi. C'est une merveille. Cette pièce est une merveille. Et on n'en finit pas de creuser, de tirer des fils. Parce que, bien évidemment, je fais une mise en scène d'Hamlet. Chacun a son Hamlet.
Bien sûr, sa lecture,
Et je fais une mise en scène d'Hamlet avec un Hamlet. Voilà.
Vous voulez dire dans le choix du comédien?
Tout à fait. C'est Thierry de Chonac qui joue Hamlet et c'est mon Hamlet.
Oui. Vous avez fait, déjà travaillé
avec
lui. Ça
fait des années qu'on travaillait ensemble. Ouais. Il était Fest, le fou.
Mm-hmm.
Non, mais bien sûr, mais tout ça est lié. Mm-hmm. Il jouait le fou dans la nuit des rois.
La nuit des rois. Mm-hmm.
Et quand j'ai dit je vais monter Hamlet en entier, c'était lui. Mm-hmm. Je savais que c'était lui.
Ça pouvait être lui et personne d'autre.
Oui.
Ouais, d'accord. Ouais. Et lui, ouais, comment a-t-il réagi? Si ce n'est pas indiscret.
Ben, je crois qu'il a...
Au tout début, je parle.
Content de la proposition. Je ne sais pas s'il attendait. Parce que j'ai laissé pendant un moment...
Planer le
un
doute.
Un peu planer le doute, je dois l'avouer.
Ah, vous êtes pervers à vos heures, vous aussi.
Ça m'arrive, oui. Non, Thierry, lui, le savait depuis un petit moment, parce qu'avant avant de me lancer... Je lui avais quand même dit, j'aimerais que ce soit toi.
Un rôle sacrément important.
J'aimerais que ce soit toi. Est-ce que tu as, est-ce que tu t'en sens, est-ce que
d'attaque
tu as
pour
d'y aller? Ça va être un travail énorme. Mm-hmm. Ça va être épuisant. Ça l'est. On vient de le laisser là sous le chapiteau. Et après sa nuit dans la caravane, et il est bien rincé, quoi. Donc, et il faut s'y remettre à 19h. Donc, c'est énorme en texte, c'est énorme en intensité de
voilà,
jeu.
Voilà, oui.
Même si. Justement, il gère magnifiquement son énergie. Mm-hmm. Mais voilà.
Il faut garder le souffle pendant autant de temps. Et puis avec tout ce qui lui arrive, avec toutes les péripéties et tout ce qu'il doit affronter. Et tout en étant...
Oui,
il essaie de rester fidèle à ce qu'il est. Enfin, c'est tout un challenge de...
C'est un gros bouleversement intérieur. Oui, ça remue.
Bah oui.
Ça remue beaucoup de choses.
De façon aux origines, quoi.
Voilà. Et puis il y a des scènes qui sont vraiment énormes. La scène avec la mère.
Ah oui, c'est.
La scène avec la mère dure 20 minutes. Mm. Et c'est 20 minutes d'une intensité, d'une violence.
Ah, c'est.
Violence inouïe. C'est pas rien.
Non, je ne pense pas.
Et c'était pour lui, voilà, c'était évident.
Mmh, d'accord. On peut dire que c'est... Je peux le dire que le spectre...
Que je joue le spectre, oui.
Oui,
oui.
Enfin, je ne sais pas, je ne sais pas.
Oui, oui, on peut. Oui, bah, oui, les spectres, il ne me reste plus que ça.
On va pleurer.
À mon âge.
À votre âge, je rêve.
J'avais très envie, justement, d'être le spectre. Je l'étais déjà dans la version d'un soupçon d'Hamlet.
Oui.
Et puis il y a quelque chose de très beau aussi dans les costumes, dont on n'a pas parlé, c'est les suaires,
oui.
Que nous on appelle les suaires,
oui, oui.
Donc, que porte le spectre. Mm-hmm. Et puis on va découvrir que tous les comédiens ont aussi leurs suaires, parce qu'ils sont déjà prêts pour la mort, puisqu'on est déjà tous prêts.
Et la mort rôde sérieusement.
On est déjà tous prêts,
oui,
pour ça, et elle rôde en permanence.
Là, c'est vraiment...
Oui, oui, et puis...
Et puis dans vos...
Hamlet et La Nuit des Rois ont été écrites la même année.
D'accord.
Ce sont deux pièces qui sont écrites pendant la peste, la grande peste de Londres.
La grande peste. Tiens donc.
Bah, oui, oui, oui. Elles parlent toutes les deux. Il y a cette chose qui rôde en permanence, qui est là. Et puis la mort est là. La mort est là en permanence. Et donc, on a fait Ce sont des planches anatomiques du 16e et 17e siècle qu'on a fait imprimer sur le tissu pour faire ça.
C'est quoi comme tissu, le...
C'est un crêpe. Et voilà, c'est le lycée de la mode de Cholet. C'est
ça, d'accord.
Le Cholet dans le Maine-et-Loire qui nous a imprimé ces...
D'accord.
C'est suaire.
Okay. Oui, parce que je m'étais posé la question de comment c'était fait. D'accord. Et il faut dire que dans la façon dont vous présentez Hamlet, il y a tout qui comme ça laisse les spectatrices et le spectateur toujours en attente, j'arrive pas à trouver le mot, on ne sait jamais trop ce qui va arriver. ça en rajoute dans votre scénographie, tous ces immenses papiers dorés là qui volent, qui bruissent, qui des fois se gonflent, ça ajoute aussi à tout le questionnement, à toute
Oui, et puis c'est ce qui fait aussi que spectateurs et acteurs sont pris ensemble
dans cette arène, je veux dire.
Oui, dans cette arène, dans cet espace mouvant, bruissant.
Comme ça, qui bouge légèrement ou au contraire de façon plus violente.
Oui, qui est toujours spectral, en fait.
Voilà, oui, c'est ça.
L'espace lui-même et le spectre, c'est la question aussi centrale dans Hamlet, quand on le met en scène, comment représenter le spectre. À chaque fois, on se heurte à ça. Moi, je sais qu'à un moment, le spectre, il doit être là, en chair et en os. Tout simplement, dans la première version, il était nu, même. Oui. Donc, je le jouais nu. J'arrivais des spectateurs et je me déshabillais, j'étais le spectre, juste voilà, un corps nu comme les corps qu'on enterre. Là, il y a le linceul, mais c'est la même idée. Mais par contre, il y a plein de... Avant son apparition charnelle...
Il y a des signes.
Voilà.
C'est ça,
des signes.
Il y a des signes.
Personne ne voit la même chose.
Vous jouez un des au tout début, parce que vous êtes le
père. Oui. Et là encore, Shakespeare met des étapes, c'est-à-dire qu'il y a des premières apparitions.
Et après ça devient plus intense.
Voilà, c'est ce que disait Eric, comment on représente ce spectre.
Cette progression, oui.
Est-ce que c'est du son? Alors il y a du son aussi, mais il y a du visuel, il y a du son. Mais on a cherché sur ça, et oui, moi je crois qu'il y a dans la scénographie d'Eric, il y a eu... On est tous le spectre, quelque part, en fait.
Le spectre et le théâtre.
Et le théâtre.
Le spectre.
Et tout en restant sur une chose abstraite, presque, en tout cas au départ, avant, comme tu disais, que tu...
Et le spectre et le metteur en scène aussi, sans... Non, mais c'est vrai. Donc... Sans spectre, il n'y a pas de pièce.
Oui,
c'est le déclencheur.
C'est le
déclencheur.
C'est le déclencheur qui fait
tragédie.
Qui fait avancer, oui. Ouais. Donc, comme souvent dans vos créations, c'est très complet au niveau artistique, puisque bon, il y a Charlotte Castella qui chante, de façon rock un peu énervée, on peut dire.
Oui, enfin, plein de choses différentes.
Voilà. Il y a
aussi les
deux petits jeunes là qui font des acrobaties, on peut dire ça comme ça.
Oui, Rosencrantz et Guildenstern.
Voilà. Il y a aussi
les amis d'enfance.
Ouais. Il y a aussi l'escrime, enfin le combat.
Ouais, le combat final. Voilà. Ouais, qui a été réglé par Rénal Rivard. Là aussi, Thierry et Guillaume Douarot qui jouent la Herte. Ils ont travaillé pendant un an avec Reynald pour mettre au point le combat, parce que ça tape fort.
Oui, oui.
Et puis au début, on a travaillé avec des bokkens en bois, mais maintenant, ils ont des vraies lames.
D'accord.
Donc voilà,
il faut manier les précautions, on va dire ça comme ça. Et vous pouvez parler de l'environnement sonore?
Laurent Salgé qui l'a fait, qui joue en direct.
Vous lui avez donné carte blanche ou comment ça s'est passé?
Oui, il a fait des propositions.
Et puis vous avez, d'accord.
Et puis il y a aussi des sons qui arrivent de l'extérieur, le son du spectre. C'est un son de ponton, en fait, de ponton qui grince, comme ça. Que j'ai entendu un jour à Lisbonne.
D'accord.
Et j'ai dit à Christophe,
sors
ton téléphone, enregistre les pontons.
D'accord.
Je sais que ça sera le son du spectre d'Hamlet.
D'accord.
Voilà.
Ah oui, comme toujours chez vous, il y a toujours comme ça des histoires. Enfin, bon, certes, votre ligne conductrice par rapport à l'enfance et aux souvenirs, mais après aussi comme ça, des choses que vous glanez. Et puis
Oui. Des choses vues,
entendues.
Je fréquente beaucoup les musées, je fréquente beaucoup. Je m'appuie toujours sur ça aussi, sur la peinture, c'est essentiel, puis la musique. Et et comme j'ai toujours en tête des spectacles à monter, Hamlet, je l'ai toujours en tête, donc
ah oui,
régulièrement, je peux dire où ça sera dans le spectacle, mmh. ou ça me fait penser à. Mmh. Et,
non, vous le mettez comme ça dans des petites boîtes secrètes, juste.
Oui, alors des fois, j'écris des petits trucs sur des bouts de papier que je perds forcément.
Ça, c'est une chance qui arrive.
Mais en fait, quand ça a été vu et ça reste quoi, il y a pas de souci. Je touche du bois.
Au bon moment, vous pouvez récupérer.
Mais pour le moment, voilà, ça rejaillit au bon moment. Ouais.
Est-ce que vous pourriez, parce que nous allons devoir nous séparer, puisque moi j'ai un autre, et vous êtes fort occupé, peut-être donner simplement le nom des comédiens et des comédiens, parce qu'ils font un travail remarquable, il faut les remercier.
Alors il ne faut pas que j'en oublie. Hein.
Ah oui, ça se...
non, c'est compliqué. Donc Hamlet, Thierry de Chonac, Leroy, Claudius, Romain Blanchard, Charlotte Castella joue Ophélie, Céline Pic joue
reine.
La reine, Valérie Mornet joue Horatio, l'ami d'Hamlet. Qui nous manque donc Reynald Rivart, le père d'Ophélie, Polonius, Paul Tronco.
Joue
énormément de rôles. j'oubliais qui, Guillaume Douarot qui joue Laërte, le frère d'Ophélie. Je crois que
Christophe
qui joue plusieurs rôles aussi. Plusieurs rôles. Voilà.
Donc, si ce soir à 19h, vous pouvez donner le libellé du site pour que les gens réservent,
bien, pour,
s'il vous plaît.
Vous pouvez réserver par le site arenetheatre.fr, ça c'est très simple. Et après, pour trouver le lieu, c'est 1 impasse du Ramier des Catalans. Ça, c'est l'entrée du parc.
Voilà, c'est le parc des
sports. Et là, c'est fléché. On marche un petit peu jusqu'au fond du parc et on arrive au chapiteau du Cirque Paradis. Après, il y a aussi une billetterie sur place, tout à fait possible. Mm-hmm. Et il y a un entracte quand même pendant le spectacle et où on peut grignoter.
D'accord. Et donc, c'est joué jusqu'au 26, hein ?
Jusqu'au dimanche 26 septembre.
Donc, aujourd'hui, c'est vendredi. Ce soir, demain soir, 19h. Dimanche, 16h.
C'est ça.
Et ensuite, vous reprenez mercredi 19h et vous finissez le dimanche aussi, c'est ça ?
Et oui. Hein ? Ouais,
d'accord.
Donc, il faut se précipiter parce que...
Bah oui, je suis tout à fait d'accord.
Puis, on n'en voit pas souvent, hein, des Hamlet entiers comme ça. En général, ils sont saucissonnés.
Et oui, d'ailleurs, oui, c'est important cette relation au temps, puisque bon, ça dure 4 heures en gros, hein, et mais aussi ce temps comme ça de pouvoir se poser pour justement suivre une histoire, comme vous dites.
Oui, oui, tout à fait, je crois à ça.
C'est... Là où tout est tronqué, souvent où tout, les gens zappent,
bah,
là,
oui,
là
hein,
non, c'est 4 heures,
tout le monde
c'est un rendez-vous durant 4 heures.
Des séries où on a notre petit épisode de 50 minutes, tout le monde est calibré maintenant sur du 50 minutes, tous les spectacles se font de plus en plus courts, on a peur d'ennuyer les spectateurs, les spectateurs ont peur de s'ennuyer. Mais non, il faut partir, il faut se laisser partir, il faut voyager.
Dans un grand voyage.
Mais oui, il faut voyager. Et on a le droit de décrocher par moment.
C'est
aussi ça le théâtre. C'est comme ça aussi quand on lit, on a le droit de sauter des pages, de faire des diagonales. C'est ce que devait faire le public
à l'époque.
À l'époque.
Bien reçu, monsieur.
J'étais vivant.
Bien reçu. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Merci.
À très bientôt. Merci aussi à toutes les comédiens et comédiens de ma part. Voilà.
On leur transmettra.
Voilà. Je compte bien. J'irai peut-être le revoir si je peux, si j'arrive à m'organiser.
D'accord.
Merci.
Au revoir.
À très bientôt.
Au revoir.
Et on peut peut-être faire une courte pause musicale avant le retour, avant l'arrivée des camarades de la cave poésie.
Ma fille s'est foutue. Mystère.
Retour dans le magazine de Canal Sud, il est 13h43 et on est toujours en compagnie de Marie-Madeleine avec cette fois-ci des nouveaux invités.
À savoir Alexis Sourouille et Yann Balade pour la CAF Poésie. Et c'est afin d'évoquer le bazar littéraire chez René qui se déroulera ce week-end, c'est-à-dire samedi et dimanche de 10h à 20h.
Oui, minuit jusqu'à samedi et dimanche 19h.
D'accord. Et donc, c'est la 7e édition.
Tout à fait.
Revenez sur le concept du bazar littéraire, c'est-à-dire c'est inviter des éditeurs et des éditrices au départ de la région. Maintenant, vous avez, enfin, au départ, c'était vraiment à Midi-Pyrénées. Bon, après, la région s'est agrandie et puis des fois, il y en a qui viennent d'un peu plus loin. Mais en fait, c'est donner la parole aux éditeurs, si je puis dire.
Oui,
leur donner l'opportunité de montrer ce qu'ils proposent et de faire se rencontrer avec le public.
C'est ça, en fait. Il y a depuis quelques années, il n'y avait plus de salon du livre à Toulouse et on a eu envie avec quelques éditeurs importants à Toulouse, puisqu'il y a les Fondeurs de Briques, il y a Anacarsis, CMDE, Smolny, enfin,
Hasard Atelier, il y en a beaucoup.
Mm-hmm. On a eu envie d'investir la CAF Poésie pour proposer leurs ouvrages. Et comme la CAF Poésie est vraiment toute petite, c'était le lieu parfait pour installer plein de tables et qu'ils s'étalent. Mmh. Donc ça nous a amené à repenser la façon de montrer les livres. Et on a appelé ça un bazar littéraire parce qu'on a sorti plein d'armoires,
d'étagères,
de buffets de cuisine qui donnent ce look un peu kitsch, un peu suranné du bazar, mais qui finalement amène beaucoup de convivialité.
Mmh. Oui, parce que tous sont très proches les uns des autres, si
c'est
on
ça.
Peut dire. Et donc, et le public aussi
déambule. Bon, ceci dit, s'il y a quelques auditeurs et auditrices inquiets du Covid, l'édition l'année dernière et cette édition sont en plein air pour beaucoup puisqu'on va
investir.
C'est-à-dire
que vous investissez la course de l'école fermée.
La cour d'école fermée et depuis l'année dernière la cour de la Cinémathèque.
Ah oui, là c'est déjà beaucoup.
Donc
plus vaste,
ce qui voilà permet de
oui d'espacer un peu plus.
D'espacer, voilà, on
et
est
d'être dehors.
Voilà, il y a moins cet aspect les uns sur les autres qui était sympathique que sur les premières éditions, mais voilà.
D'accord. Donc il y a 42 maisons d'édition, c'est ça? Enfin,
un peu plus.
Ah mince,
il y en a qui se rajoutent.
D'accord.
Dans le programme, on en a 42, en effet.
J'ai bien compté, ça me rassure.
Et une cinquantaine en tout.
D'accord.
Sachant que cette année, on a des éditeurs qui viennent accompagner d'autres éditeurs, qui se regroupent.
Okay.
On a beaucoup de micro-éditions aussi, cette année, beaucoup plus que l'an dernier. Voilà, on est passé de 30 maisons d'édition en 2019 à du coup une cinquantaine là cette année. Donc c'est vraiment un agrandissement plus que physique donc du bazar. Et oui, comme on disait, on a des gens qui viennent un peu plus que de la région. Du coup, on a des gens de Marseille avec les éditions Zoem par exemple. On a une édition de Bordeaux. Enfin, voilà. Ça reste du sud de la France quand même, mais plus qu'Occitanie. Ouais.
Oui, vous grandissez.
Exactement.
Vous avez du succès, on va dire ça comme ça.
Ah bah, on l'espère en tout cas.
Bah si, puisqu'ils viennent.
Le succès au niveau des éditeurs est là. Après, on attend le public aussi ce week-end.
Mais effectivement, il y a un changement d'échelle cette année pour le... Bon, déjà l'année dernière qui avait été enclenchée avec l'investissement de la cour de la Cinémathèque. Qui nous a fait repenser tout l'espace. Et finalement, ça s'est super bien passé. L'équipe de la Cinémathèque était toujours d'accord pour nous accueillir. Donc, ça nous permet de prendre de l'air, d'avoir de l'espace et d'accueillir plein d'autres éditeurs.
Oui, de pouvoir offrir à davantage d'éditeurs
et
d'éditrices.
C'est ça.
D'accord. Ben, ça, c'est bien. Et donc, on ne peut pas les énumérer toutes, non, parce que sinon ça serait dans ces cas-là il faut renvoyer les gens sur le site. Mais il y a aussi comme tous les ans des interventions plus artistiques, si je puis dire, avec des lectures concerts, des lectures musicales, de la danse, aussi quelqu'un, ça m'intéresse beaucoup, Poticha, c'est ça, ouais. Qui c'est du théâtre et hein.
Oui,
ils
en
ont
fait,
une formule très particulière.
La particularité de
parce que éditer du théâtre, c'est déjà pas évident. Quoi. Enfin, les auteurs de théâtre qui veulent être édités, c'est quand même pas chose simple. La poésie et le théâtre, c'est compliqué.
Oui, c'est complexe. Disons que la particularité de ce bazar, c'est qu'il se déroule à la cave poésie et que la cave poésie, c'est un lieu de spectacle vivant. Mm-hmm. Donc, bien évidemment, on ne pouvait pas se contenter
gommer
de
la partie spectacle
voilà.
vivant.
Oui. Donc, tout le week-end, on propose comme ça effectivement des lectures concerts,
des rendez-vous
en bas dans la cave pour le coup. Donc là, il faudra venir masquer avec son masque et son épée et sa cape et son sombrero comme Zorro. Donc ça, on propose une programmation au fil des deux jours qui permet aussi aux gens de découvrir des maisons d'édition parce que parfois on n'ose pas se plonger dans les bouquins, aller vers la table, feuilleter. Là, il y a un comédien, une comédienne qui va lire des textes et au moins on peut pénétrer dans une œuvre dans l'univers d'un éditeur et après potentiellement aller acheter des livres. Alors les auditions Poticha, c'est pour le coup c'est un peu particulier, c'est un jeune auteur qui s'appelle Romain Nicolas qui est un très grand auteur de théâtre en devenir. Il a même pas 30 ans, il est déjà invité à la Chartreuse, Villeneuve-les-Avignon. Il a vraiment une langue particulière. On l'a beaucoup soutenu à la cave ces dernières années. Il a fait ses premiers spectacles à la cave poésie. Là, il a imaginé une maison d'édition qui serait un peu comme une AMAP. Donc, pour mémoire, la MAP, c'est lorsque vous associez avec un paysan
avec
et que pendant une année, vous engagez à lui acheter tous les lundis votre panier de légumes ou de fruits ou de viande, enfin bon.
De fromage.
Et lui, ça lui permet d'avoir un peu de trésorerie. Là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'il vous propose de vous engager sur l'année pour recevoir un livre, je crois que c'est tous les mois à la maison. Vous ne savez pas ce que c'est.
C'est une pièce, mais...
Une pièce de théâtre, voilà. Mais vous ne savez pas. Et là, évidemment, Romain est un garçon de son temps. Donc, les éditions Poticha sont des éditions qui vont essayer de mettre en avant une programmation non genrée, qui sera moitié écrite par des hommes, moitié écrite par des femmes. Mais il doit bien y avoir un tiers aussi pour... des transgenres ou des non-définis. Enfin, en tous les cas, avoir une sensibilité à la question du genre.
La plus ouverte possible.
Voilà, le plus ouverte possible.
D'accord.
Évidemment, une maison d'édition sans propos sexistes, homophobes, racistes, etc. Et qui aussi vient questionner l'intersectionnalité et les minorités. Donc, vraiment un choix éditorial très contemporain, puisque ce sont des auteurs et des autrices qui ne sont pas encore édités, qui débutent. Voilà. C'est vraiment une maison d'édition qui vous engage à la curiosité.
Attends, j'ai pas suivi. C'est quoi le nom de cette maison d'édition ?
Poticha.
Ok.
Comme le Poticha est mort.
D'accord, ok.
D'accord. Et donc, si j'ai bien compris... c'est comme pour les AMAP, c'est au niveau
vous vous engagez,
c'est exactement la même
c'est
chose.
Ça, c'est ça. Oui. Vous vous engagez sur un laps de temps pour recevoir
des livres,
des
pièces, d'accord.
Alors je sais plus si c'est tous les mois ou toutes les semaines.
Moi j'ai lu tous les mois, mais
tous les mois, oui,
pas.
Voilà, c'est ça.
D'accord. Oui, non, mais ça va permettre aussi à beaucoup de jeunes autrices et auteurs de se faire connaître, parce que ce n'est pas évident. Hein.
Oui, alors Romain Nicolas a aussi monté un comité un comité de lecture qui s'appelle le comité Collision, qui regroupe tout un tas d'acteurs culturels du spectacle vivant, du théâtre à Toulouse. Et le premier lundi de chaque mois, premier lundi d'octobre, premier lundi de novembre et premier lundi de décembre, ils seront à la CAFPO pour présenter justement des textes d'auteurs, d'autrices qui ne sont pas encore édités. Ils avaient fait ça l'année dernière, vous pouvez le retrouver sur le site de la CAFPO. Là, c'est la deuxième édition. Donc voilà, Romain, de fait, hein, de par sa pratique d'auteur, il est en lien avec plein d'autres auteurs, d'autres autrices qui sont peu ou pas publiées. Et là, voilà, c'est l'occasion de découvrir.
D'accord. Vous parliez tout à l'heure qu'il y avait, que c'était le plus ouvert. Il y a aussi, vous réservez aussi une place aux maisons d'édition aussi féministes, si on peut dire.
Oui.
Me semble-t-il, enfin en lisant le...
J'aurais pas dit qu'on mettait une...
Enfin, vous mettez en avant, mais même vous l'évoquez des fois, enfin, oui, dans après, le choix de vos spectacles.
Oui, engagement.
Ça se tient, quoi, dans
tout
votre
histoire.
Tout à fait.
Voilà,
c'est
histoire. Plus ça. Il y a un engagement de la CAVE sur la question du genre, sur
de la diversité.
De la diversité, évidemment, de la création féminine, puisque tout est parti, notre interrogation sur le genre est partie finalement d'une volonté de mettre en avant la création féminine, et puis finalement l'a complètement fait exploser.
Éclaté. Mmh.
Donc oui, il y a les éditions Blast, il y a le Chèvrefeuille étoilé, il y a aussi des maisons d'édition qui travaillent sur le trouble du genre, je pense à Anatote avec le Grand Os, voilà.
Oui.
On interroge.
D'accord, bah oui. Il y a aussi dont l'artiste associé, on peut dire comme ça, Claire Rangade.
Oui.
Vous pouvez en parler, puisqu'elle, durant. Là, elle ne sera pas présente, puisqu'elle a eu un petit souci. C'est ça.
Cette année, avec la CAF Poésie, on va vous proposer de partir en résidence. Enfin, nous, on va partir en résidence et on va vous proposer d'être avec nous, avec l'autrice Claire Rangade. Samedi. À 20h, vous aurez l'occasion de la rencontrer. Alors, ce sera effectivement une rencontre un peu particulière parce qu'elle ne sera pas avec nous. Voilà, elle est hospitalisée pour de longues semaines pour une opération qui était un peu imprévue. Voilà. Donc, on va l'appeler. Il y aura une performance graphique, visuelle, sur scène, en direct à la CAFPO. Et elle sera au téléphone avec nous et ce sera l'occasion d'une discussion et peut-être d'une performance radiophonique. Voilà.
D'accord. Okay. Où en étais-je? Oui, j'aimerais aussi que, parce qu'il y a parmi toutes les maisons d'édition que vous accueillez, il y en a avec qui vous avez depuis le début un compagnonnage. Je pense notamment au Fondeur de Briques.
Oui.
Qui propose aussi des textes comme ça.
Et même plus que ça.
Oui, mais je sais, mais j'ai fait simple.
On a un focus donc Fondeur de Briques cette année, avec donc plusieurs concerts, spectacles, notamment un focus sur le punk le samedi soir. Donc voilà, de 21h à 22h30 de mémoire. Mais pas que. Donc effectivement, oui, les Fondeurs, c'est des maisons d'édition avec qui... on est attaché. Oui, et cette année, c'est vrai que la programmation s'est faite dans ce sens-là, mais c'était pas forcément prévu. Quand on a décidé de... Donc, on est ouvert à toute proposition pour les programmations. On demande à toutes les maisons d'édition s'ils ont des choses à proposer.
À mettre en avant,
etc. Donc, tout le monde est logé à la même enseigne. Et c'est vrai que cette année, les Fondeurs ont proposé beaucoup de choses très intéressantes. Et ça s'est fait comme ça. Ça s'est glissé. On a programmé, reprogrammé. On a fait des focus. Bon, ça s'est fait assez naturellement, ce final. Et voilà, c'est vrai que donc, le samedi soir, Focus Punk, on a...
Les Fondeurs de Briques, ils publient beaucoup cette littérature d'Amérique du Nord, un peu underground, un peu... Et là, effectivement, comme le dit Alexis, ils nous ont... Bon, nous, on avait voulu programmer une lecture de leur livre sur leur livre de Woody Guthrie, cette machine tue les fascistes. Cette machine, hein, c'est de la guitare dont parle de sa guitare dont parle Woody Guthrie. Et au même moment, les Fondeurs nous ont proposé un concert des Glory Boys. Ce sont des chansons de marins, des chansons à boire, pour une grosse somme qu'ils vont sortir autour du folk song. Une somme écrite par Jacques Vassal, qui a été publiée d'abord dans les années fin des années 70, et dans lequel Jacques Vassal retrace vraiment l'histoire de la folk song américaine, qui c'est vraiment leur cheval de bataille. Donc, on faisait quelque chose sur ou Woody Guthrie, naturellement, ben, on les a accueillis pour ce travail sur le folk song. Et après, il y a eu un travail de Marc Sastre, un grand poète toulousain, contemporain, sur le punk, sur la mort du rock. Et au même moment, les éditions Demain les flammes, oui, je crois que c'est ça, a publié un bouquin de Jacques Trab, oui, c'est Jacques Trab, je crois, qui est un chroniqueur punk new-yorkais, donc années 80-90. Et finalement, ben, ça s'est fait comme ça, avec les fondeurs, avec Demain les flammes. On s'est dit, ben, tiens, on commence avec le folk vers 18h, 18h, 19h, un petit apéro avec les Glory Boys sur les chansons de Marin. Et après, une soirée punk.
Carte blanche, si on peut dire.
Voilà. Carte blanche à Marc Sastre, carte blanche à Gilles Fossier. Ça s'est fait, voilà, ça s'est fait comme ça.
S'il avait déjà interprété, Gilles Fossier, les textes des fondeurs de
briques. Oui, Gilles Fossier est vraiment un compagnon de route des fondeurs de briques. On l'accueille régulièrement à la CAF Poésie, et là, il a été d'accord pour prendre en charge cette parole.
D'accord. Il y a aussi, comme tous les ans, des ateliers, notamment ateliers de sérigraphie, de calligraphie.
Oui.
Et ça, c'est aussi un autre rapport, c'est la création, mais c'est aussi notamment la calligraphie, un rapport au temps. Il faut prendre le temps, il faut se poser.
Eh bien, oui, et c'était un petit défi, donc, la calligraphie cette année, parce que c'est vrai qu'en soi, c'est quelque chose de très long, très minutieux. Et là, donc, on a beaucoup de monde attendu sur le salon, et on n'a pas forcément eu le temps de se poser pendant quelques dizaines de minutes, quelques heures pour apprendre à manier les calames et autres. Donc on va faire sûrement des œuvres collectives en calligraphie, donc chacun va apporter sa petite pierre à l'édifice. On a une sélection de textes de nos auteurs et autrices donc prédéfinis, et ensuite les personnes qui s'inscriront aux ateliers, qui viendront s'asseoir, pourront effectivement repartir avec un petit bout de poème ou autre, ou alors décider s'ils le souhaitent de l'intégrer à cette œuvre collective pour la calligraphie. Pour la sérigraphie, c'est un peu différent, vu que bon, c'est un médium plus simple à mettre en place. On a un sérigraphe qui donc, s'appelle Jean Mozambi, qui nous vient des Pyrénées, qui est bien connu des amateurs de jazz, vu que c'est un sérigraphe qui fait beaucoup d'affiches pour...
les concerts de jazz.
Là, récemment, il a fait le programme du Taquin, qui est un club de jazz. Voilà. Et il vient des Pyrénées, et donc on lui a donné des textes, des poèmes. Et donc, il va venir avec ses cadres pour justement que les gens apportent papier ou autre pour repartir avec...
Avec une
petite création, voilà, aux couleurs de Chéronnet, donc l'orange et le violet de cette année.
Ou autre, c'est-à-dire que vous pouvez amener vos t-shirts, vous pouvez amener vos torchons, vous pouvez amener vos draps, vous pouvez amener vos boxers, vos petites culottes, bon, même si les textes sont un peu longs. Donc je ne sais pas si sur les strings ça passe, mais en tous les cas, vous pouvez amener
un vêtement
pour votre plus beau blouson
pour le personnaliser.
Avec. Exactement.
Okay.
Et aussi, on a hors atelier, on a un photomaton, forain. Donc c'est un concept assez rigolo des éditions Cloug, éditions du Cloug et Happy Snaps qui seront présents avec nous. En fait, vous avez une sorte de fusil de fête foraine, donc à fléchette.
Rien de
dangereux. Et en fait, quand vous touchez la cible avec cette fléchette, ça prend une photo. Donc voilà, c'est une photo vraiment dans l'action, en train de. Donc c'est
assez
rigolo.
Et après, il y a la surprise à l'arrivée.
La surprise, et vous avez reporté avec votre photo,
c'est très ludique,
et aussi quelque chose que donc j'ai hâte de voir en vrai, une partie d'Ou Scrapo. C'est une partie de Scrabble géante où en fait les personnes piochent des lettres et créent des mots qui ne veulent rien dire.
Il n'y a pas de règles précises.
Il faut créer un mot et trouver sa définition, et cette partie se déroule lors de la journée. Voilà, Ou Scrapo.
Et ça, c'est installé où?
Et ça, ce sera donc installé à la Cinémathèque, probablement.
D'accord.
En tout cas, en extérieur pour tout ça.
Et pour ce qui est des lectures et tout ça, j'imagine que les gens doivent réserver. Comment ça se passe? Puisque la CAF, c'est au gré de l'envie. Non, parce que la CAF, elle est toute petite.
Donc on fera rentrer les premiers oraux masqués.
Les plus zélés, enfin, qui seront les plus rapides ou qui seront intéressés. D'accord.
Exactement.
D'accord, qui iront faire une
mais
pause.
Mais non, mais il faut venir se balader. Nous, on annoncera régulièrement.
Oui,
les...
à quels horaires cela se déroule.
C'est ça, donc...
Et dont les gens intéressés voilà, regardent leur montre pour
venez,
être...
Venez vous balader, venez manger une crêpe, venez manger un
peu. Il y a toujours les crêpes.
Oui.
Oui, la cave poésie et les crêpes, c'est vrai.
Il y a Gisèle qui va préparer son mafé. Il y aura même du granité au citron et au café pour ceux qui aiment bien un peu l'Italie.
C'est vous qui le préparez ?
Il y a des secrets qu'on ne peut pas révéler à l'antenne.
Je peux arriver à les trouver, vous savez.
Et oui, c'est c'est une mission pour la section investigation de Canal Sud.
D'accord.
Nous ne pouvons pas révéler ces choses-là.
Donc granité au citron et au café, c'est ça ?
Au citron ou au café.
Oui, c'est l'un ou l'autre, j'ai
bien
compris.
Voilà, tout à fait.
Oui, oui. Mais les deux pourront être goûtés. Voilà, j'avais bien compris l'histoire.
Présent. Non, mais donc voilà, pour les spectacles, c'est vraiment...
Ça peut être au coup de cœur, comme ça.
Exactement.
Ou...
Laissez-vous surprendre.
Voilà, d'accord.
C'est ce qu'on essaye de... Ça pourrait être le mot d'ordre de la CAFPO.
Au cours d'une déambulation, laissez-vous surprendre par...
Complètement.
Un petit quelque chose comme ça qui vous happe.
Oui, d'autant qu'il y aura aussi dans l'espace public, enfin dans l'espace du bazar, la compagnie le plus petit espace possible, qui est pas venue à la cave pour rien, va déambuler entre les stands pour jouer un peu de musique, dire quelques poèmes, donc... Il y aura toujours quelque
comme
chose
ça,
à voir.
Comme ça, de façon très impromptue, très d'accord. Oui,
sur
au détour, comme ça, d'accord.
Complètement, complètement.
Petite surprise, comme ça, d'accord. Ok. Donc c'est demain et dimanche. Demain, c'est 10h, ouverture des portes.
Ça ouvre à 10h. Un petit mot sur le pass.
Ah oui, si je vous laisse faire.
Si vous n'en avez pas, on en fournit un dans le programme de chez René.
D'accord, c'est bien.
Voilà, donc vous avez un
passe-passe. Ça s'appelle le passe-passe... Pardon, j'avais envie de reprendre cette blague que je trouvais rigolote. Ça s'appelle le passe-passe sanitaire.
Voilà, c'est ça. Donc, si vous avez envie de venir et que vous n'avez pas...
Vous ne soyez pas muni du pass...
Ou que vous n'avez pas envie de vous faire curer le nez, on vous fournit un petit pass.
D'accord. Voilà. Vous pensez à tout. On va dire ça quand
même. Ben là, il faut que le public vienne.
Oui, mais j'ai bien compris, oui.
C'est ça. Mais bon, ceci dit, voilà, bon, je n'en dirai pas plus sur le pass, vous aurez compris
ce qu'on en pense. Oui.
Par contre, venez quand même avec le masque. Ça, quand même, pour descendre à la cave, pour voir les spectacles, c'est nécessaire. L'idée, c'est quand même pas de créer un cluster.
Oui, je me doute bien, oui.
Donc, il y aura du gel hydroalcoolique, bien sûr. On demandera aux gens d'être masqués, voilà.
Et dehors, dans la cour, enfin, dans les cours... C'est laissé au gré, au choix de chacun ou...
Le masque ?
Ouais.
Bon, si les gens peuvent le porter, c'est quand même mieux.
Oui, parce qu'il y a une concentration de personnes.
De sueur.
Ok. Donc, et dimanche, vous ouvrez aussi à 10h, c'est ça ?
Oui, dimanche, c'est à 10h, on finit à 19h. 18, ah oui, c'est vrai.
Officiellement.
18. Voilà, c'est tous les jours à 18h, à 10h, tous les jours à 10h, samedi et dimanche, vous pouvez débarquer, si vous venez à 10h, il y aura sans doute encore un peu de croissant, du café pour vous attendre, et puis au fil de la journée...
Il y aura les crêpes et autres gourmandises, et puis après les repas plus solides préparés par Gisèle, on va dire ça comme ça.
Tout à fait.
D'accord, elle est toujours installée dans la petite cour entre les...
Oui, bon, alors on a commandé du beau temps, mais comme chaque année, pour chez René, il va sans doute pleuvoir.
Mais quel oiseau de mauvais augure que vous faites enfin.
Ben, je vous avoue qu'on est un peu déprimé. Mais bon, samedi, je sais pas, apparemment c'est un peu gris. Mais
non,
donc
ça devrait le faire.
Mais s'il ne pleut pas, même si c'est.
S'il pleut, voilà, sachez que de tout cas les espaces sont couverts. Il y a
des
véloms
qui
nous permettent de vous accueillir tranquillement, d'être à l'abri.
De mettre à l'abri les livres aussi parce que c'est quand même important.
Exactement. Et donc tous ces éditeurs, voilà, venez avec vos petites étrennes, vos économies. Disons que là, l'intérêt, c'est que vous allez trouver des éditeurs qui sont très difficiles de découvrir
en temps normal. Oui,
voilà,
dans une librairie plus classique.
Même si on a de très bonnes librairies à Toulouse. Mmh. Hein, d'ailleurs, il y a plein de libraires qui nous soutiennent. La librairie Librecourt qui est à Arnaud Bernard, j'en profite pour...
Elle est toute nouvelle, c'est
ça. Voilà, elle est toute nouvelle. Il y a une jeune libraire qui s'est installée à Arnaud Bernard, une librairie. Donc là, il faut vraiment y aller. Même si elle n'a pas le bouquin que vous souhaitez, commandez-le lui. C'est vraiment là, un acte de militance d'aller acheter des bouquins là-bas. Sinon, bien évidemment, Terra Nova, L'Autre Rive, Le Chameau Sauvage, Flourifrère, le évidemment Ombre Blanche, bon, mais...
Est-ce que vous connaissez la librairie, la librairie Au Bonheur des Dames, qui est pas loin d'ici, rue Nino?
Mais ce sont des livres d'occasion, non?
Non. Ah bon? Au Bonheur des Dames, c'est des livres, dont les ouvrages, tout théâtre, poésie, roman, comment on appelle, documentaire, écrit essentiellement par des autrices.
Ah, génial!
C'est Rue Nino.
Exclusivement par des autrices.
Voilà, ouais.
Exclusivement. Eh bien, voilà, une chose à penser pour l'année prochaine.
Voilà.
Mais voilà, venez avec vos étrennes, parce que là, vous allez trouver des micro-éditions, vous allez trouver des ouvrages, et puis en plus...
Oui, qui ne sont pas connus comme ça, voilà. De prime abord, oui, bien sûr. Oui.
Auxquels vous n'aurez pas accès ailleurs, que vous ne trouverez pas la critique au Masque et la Plume ou sur le Figaro Magazine. Ou
encore le Masque et la Plume, bon, dans leur conseil, ils ont quand même des fois des... Comment dirais-je,
des livres d'anacarsis, c'est vrai.
Des livres qui ne sont pas forcément connus du grand public.
C'est vrai. Mais bon... là, c'est l'occasion de rencontrer les éditeurs en direct et de voir...
Et de trouver des pépites.
De trouver des pépites, complètement.
Parce que même des fois, dans la présentation du livre, il y a des éditeurs qui ont des formules très spéciales. Quoi.
Complètement.
Très esthétiques, très...
Et puis cette année, une dernière petite chose, on va accueillir le photographe Thibault Lévesque qui a réalisé la photo qui est le visuel de saison de la Cave Poésie, là, cette année, les deux garçons qui courent dans la nuit. Il sera là, on va exposer ses photos dans le couloir de la Cave Po. Donc voilà, vous pouvez même, si vous préférez l'image, repartir avec des clichés originaux de Thibault Lévesque, qui est un jeune photographe vraiment à suivre. Nous, on va sans doute le suivre 3 ans à la Cave Po pour accompagner.
Parce que tout l'été, là, il y a eu l'exposition qui est restée sur les murs de la Cave Po.
Exactement, donc là, voilà, il va venir avec un dernier livre qu'il a sorti.
Avec de nouvelles photos, donc, c'est ça?
Et avec quelques nouvelles photos.
D'accord, ok. Voilà. Et là, après, une fois... puisque, comment dire, les photos de type sont dans la salle du haut, ouais. Elles vont rester encore au-delà ou pas?
Je pense qu'elles vont rester. Je pense qu'on va les garder puisqu'il nous suit.
D'accord.
Mais là, voilà, si vous avez envie de rencontrer cet artiste, il sera là. Il est au Havre, il est entre Le Havre, Paris et Marseille. Voilà, ça vaut le coup. Si vous êtes plutôt art visuel, voilà, venez découvrir ça, ça vaut le coup.
D'accord. Je vous remercie beaucoup, tous les deux.
Merci.
Merci.
Merci à vous.
Et puis, continuez bien les préparatifs. J'imagine que vous avez du pain sur la planche.
On est en plein dedans. Hein.
Mais c'est très gentil d'être jusqu'à nous. Merci beaucoup.
Merci.
À bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Et merci, c'est tout pour le magazine d'aujourd'hui. Et on se retrouvera mardi à partir de midi, où on invitera un collectif de militants mexicains qui sont en tournée, notamment en France, qui viennent de l'isthme de Tehuantepec et qui lutte en fait contre l'installation d'un parc éolien d'EDF. Je vais donner la parole à ma mère.
Et ensuite, je prendrai la suite, c'est le cas de le dire, pardon, avec Michel Brun à 13h pour Passe ton bac d'abord et ensuite à 13h30 les arts en balade. Voilà, mardi.
Bon week-end.
Merci, à bientôt, au revoir.